Le journal Loïc Barrière. Emmanuel Macron annonce un projet de loi asile et immigration pour début 2023. Il veut notamment s'appuyer sur les territoires ruraux pour l'accueil des étrangers. Les Tunisiens, confrontés à des pénuries de certaines denrées alimentaires, entretien avec Kamel Gharghouri, secrétaire général du parti État Catholique. Le décès de Hussein Miloudi, l'une des figures de la peinture contemporaine au Maroc. Enfin, nous écouterons le comédien et metteur en scène Mohamed Kaki. Il présente une lecture de sa dernière pièce, Hakima, je me souviens, ce dimanche dans la ville de Bourbonne-les-Bains. Emmanuel Macron annonce un projet de loi sur l'asile et l'immigration pour le début 2023 devant les préfets réunis hier à l'Élysée. Emmanuel Macron a souhaité une meilleure répartition des étrangers sur le territoire français, notamment dans les espaces ruraux qui sont en train de perdre de la population. Selon Le Figaro, le chef de l'État a qualifié la politique actuelle d'absurde, inefficace et cruelle, car selon lui, elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent dans la plus grande misère dans les quartiers les plus défavorisés. Emmanuel Macron promet aussi d'améliorer l'efficacité des politiques de reconduite à la frontière pour les étrangers en situation irrégulière. En Tunisie, le gouvernement et l'UGTT ont signé un accord sur une augmentation salariale dans le secteur public. Cette revendication était au cœur de la grève qui a paralysé le pays en juin dernier. Les deux parties sont tombées d'accord sur une augmentation de 5% du salaire brut dans le secteur public. La Tunisie, qui est en proie à des pénuries de certaines denrées alimentaires, cela sur fond d'inflation galopante et de crise financière. Nous y revenons avec le secrétaire général du parti État Catholique, Kamel Gharghouri.
Comme partout ailleurs, je pense, dans le monde, il y a une inflation galopante sur plusieurs produits, essentiellement sur les sur le sucre, par exemple, ou sur les produits, d'autres produits de base. Actuellement, cette conjoncture mondiale vient s'ajouter à une conjoncture nationale qui est déjà difficile et où on a certains monopoles de l'État sur quelques produits. Ça fait que il y a quelques pénuries, il y a des pénuries sur certains produits, donc pénurie plus inflation, il y a aussi quelques dérapages. Et le discours officiel actuellement est plutôt rassurant que ça va se résoudre dans les heures ou les jours qui vont suivre. On espère que ça va être le cas. Mais bon, actuellement, il y a réellement une situation assez difficile par des pénuries qui touchent, comme j'ai dit, le sucre ou d'autres produits comme le lait, le beurre, des produits laitiers. Donc c'est tous des systèmes de production qui font face à ce changement très brutal au niveau des prix des intrants à l'échelle mondiale et des difficultés d'approvisionnement, parce qu'il y a les deux. Non seulement les prix sont chers, mais en plus l'approvisionnement est dur. Donc ça fait augmenter d'une manière très brutale les coûts de revient, qui sont difficiles à répercuter sur un temps très court aux consommateurs. Donc toute cette situation est complexe et difficile à gérer.
Et le prix de certains produits, comme le lait, est fixé par l'État, ouais, qui subventionne en partie le secteur.
Oui, bon, ça c'est un choix où l'État subventionne plusieurs produits de base, comme le lait, le blé, et d'autres produits. Bon, vu l'envolée des prix, l'État n'est plus en capacité d'apporter cette subvention parce que elle devient de plus en plus forte. Bien sûr, elle n'a pas été prévue dans le budget de l'État et trouver des ressources n'est pas forcément facile. sur un temps extrêmement court, où déjà les finances publiques sont en souffrance, tout ça fait que l'État n'arrive plus à payer cette subvention, donc ça exerce aussi une pression de plus sur le système de production et par la suite sur la sécurité alimentaire des citoyens. Donc cette situation est très complexe, il faut des réformes ou une meilleure optimisation de cette subvention parce que actuellement une aide à la population est nécessaire pour supporter cette variabilité très importante des prix et cette inflation trop forte, mais il faut aussi que l'État ait cette capacité là, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui.
Cette situation a été aggravée, amplifiée par la guerre en Ukraine?
Oui, oui. Bon, la guerre en Ukraine, elle a surtout perturbé l'approvisionnement en blé direct. Je dirais l'effet direct, c'est l'approvisionnement en blé. Bon, l'effet indirect, c'est ajouté au Covid. C'est la création d'une pénurie à l'échelle mondiale et une hausse des prix, essentiellement des prix de l'énergie, même si la Tunisie n'est pas un gros importateur de gaz, soit ukrainien, soit russe, mais elle subit la hausse des prix à l'échelle mondiale, donc de plein fouet, qui crée une pression insupportable sur la caisse de compensation parce que l'État subventionne aussi l'énergie. Donc, partant de là, cette guerre, oui, elle impacte soit directement, soit indirectement en impactant les marchés internationaux. Et bien sûr, la Tunisie n'est pas isolée de ces marchés internationaux, surtout que la Tunisie n'est pas autosuffisante en hydrocarbures ou en autres denrées comme le blé.
Et concernant la jeunesse tunisienne, le budget des aides sociales au profit des élèves et des étudiants va être augmenté, multiplié par deux.
Oui, bon, c'est l'annonce qui a été faite. Bon, pour moi, c'est une nécessité. Après, il faudra que ce soit délivré à temps. Nous, on a un problème énorme au niveau de l'inflation sur que ce soit les affaires scolaires, bon, les cahiers, tout ça, et même si c'est subventionné, mais quelques produits sont subventionnés, d'autres pas. Même si le transport est aussi subventionné, mais il y a aussi les prix des autres denrées, les prix des loyers. Tout le monde n'est pas dans des foyers universitaires et les foyers universitaires en Tunisie sont quasiment gratuits, ainsi que les restaurants universitaires ou les cantines scolaires. Tout ça est quasiment gratuit parce que c'est des prix très très faibles. Et pour juste vous donner une idée, c'est de l'ordre de 2 euros par mois une chambre dans le foyer universitaire. Donc, mais bien sûr, on n'arrive pas à satisfaire tout le besoin. Ceux qui ne sont pas dans le foyer universitaire ont des coûts de logement très, très forts. Donc, une aide de l'État est une nécessité et une tradition.
Et comment vous qualifiez aujourd'hui le climat social en Tunisie ?
Le climat social en Tunisie aujourd'hui est un climat très délétère et très explosif. Donc, vu la situation que je viens de dépeindre actuellement, bien sûr, c'est un climat très tendu. Vous voyez les vagues d'immigration, les jeunes et les moins jeunes sont en perte d'espoir. Et ça, c'est on le vit actuellement. Bien sûr, les politiques ont failli et continuent à le faire, à retrouver des solutions et à essayer de donner de l'espoir à la population. Et tout ça fait qu'on est dans une sorte, depuis très longtemps, dans une sorte d'attentisme qui fera les pas nécessaires pour sortir le pays de l'ornière. Tout le monde attend l'autre et avec cette situation-là, ça sera très difficile d'avancer. Et bon, la situation politique avec cette crise politique qui n'en finit pas ne facilite pas les choses.
Le secrétaire général du parti tunisien Etakatol, Kamel Gargouri, il répondait à François-Xavier de Calonne. En Ukraine, une fosse commune de 440 tombes a été découverte à Izioum. La ville a été reprise aux Russes il y a quelques jours lors de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv. C'était il y a 40 ans au Liban, les massacres de Sabra et Shatila, des massacres qui ont commencé dans ces camps palestiniens le 16 septembre 1982 et se sont poursuivis pendant 3 jours. Nous y reviendrons dans nos éditions de samedi et dimanche. Au Maroc, le décès de Hussein Miloudi, l'une des plus grandes figures de la peinture contemporaine dans le royaume, né à Essaouira, ville à laquelle il était resté attaché. Il avait 77 ans, Mehdi Kotbi, peintre et président de la Fondation des musées du royaume du Maroc, lui a rendu hommage en affirmant qu'il lègue une œuvre exceptionnelle, revisitant les arts ruraux et la culture populaire du Maroc profond. Le démantèlement d'un réseau de passeurs de migrants utilisant des avions privés, c'est ce qu'a annoncé Europol. Le trafic s'organisait principalement entre la France, l'Autriche et l'Allemagne. En France, la journée a été marquée par une nouvelle grève dans le secteur aérien. 1 millier de vols ont été annulés ce vendredi. Les aiguilleurs du ciel revendiquent une augmentation des salaires et des effectifs. Le comédien et metteur en scène Mohamed Kaki fera une lecture performance de sa nouvelle pièce Hakima, je me souviens, ce dimanche à 16h à l'office du tourisme de Bourbonne-les-Bains en Haute-Marne. On écoute Mohamed Kaki.
Cette pièce, tout d'abord, elle rend hommage aux travailleurs algériens qui sont morts pour l'Algérie, qui sont morts lors du 17 octobre 1961. Donc ça raconte aussi l'histoire du 17 octobre 1961. Elle raconte aussi l'histoire du combat pour l'indépendance de l'Algérie. Et elle raconte aussi, après l'indépendance, comment les Algériens, les travailleurs algériens et leurs enfants ont vécu après 62 ici en France. Et ça n'a pas été une histoire facile non plus. C'est, je l'ai voulu aussi drôle, parce qu'il faut rire dans le théâtre, hein. Le drame c'est fait pour en rire, et c'est très important. Donc c'est, voilà, elle interpelle ici, là-bas, et elle mélange la poésie, mais aussi l'histoire singulière des gens avec la grande histoire.
Vous allez faire une lecture de votre pièce dans la ville de Bourbonne-les-Bains. Il s'agit donc d'une mise en bouche. C'est la première fois qu'on va pouvoir avoir connaissance du texte de la pièce.
Oui, alors là, c'est une très belle histoire, je vous remercie. C'est une histoire de rencontre. Donc je suis ici dans la Haute-Marne et donc dans un lieu inconnu pour moi. Et puis le public qu'il y a là-bas, il est aussi, lui-même ne connaît pas cette histoire, il est même très loin de cette histoire. Et je dirais que quand je lisais ce texte dans la rue, en marchant dans cette ville, Bourbonne-les-Bains, eh bien, beaucoup de gens sont venus vers moi et petit à petit, ça s'est construit. Et donc, on m'a proposé de me programmer l'année prochaine. Et avant cette programmation, eh bien, on a décidé de faire une mise en bouche, une lecture performance pour les gens, pour les touristes, etc. Et je suis très heureux de l'offrir, cette mise en bouche, puisque ça y est, ça commence à prendre forme. C'est quand même un long texte important. Et qui convoque le rire, parce que beaucoup de gens qui me voient passer dans la rue rient aussi avec moi, ils viennent me voir, ils écoutent et donc et ça les intéresse et donc voilà, nous allons ce dimanche 18 septembre eh bien offrir un apéritif de ce texte, je dirais, une mise en bouche pour la première fois, effectivement, avant les représentations du mois d'octobre qui auront lieu à Paris, à Lyon et dans les Ardennes.
Et vous le dites, il est important de raconter la petite histoire pour parler de la grande histoire avec un grand H.
Oui, absolument. C'est tout à fait ça qui touche les gens. Parce que les gens, quand ils m'écoutent lire le texte, ça raconte des petites histoires en même temps, singulières. Par exemple, lorsque je parle de ce monsieur S, l'instituteur alcoolérique, qui va avoir une attitude assez bizarre avec des enfants d'Algériens, une dame, pas plus tard qu'aujourd'hui, m'a dit « Écoutez, mais moi ça me parle parce que à l'époque, on frappait les enfants à l'école et c'était pas seulement pour les enfants d'Algériens, mais c'était aussi d'une manière générale à l'école française, eh bien c'était normal de frapper les enfants physiquement, donc c'est-à-dire dans les années 60, etc. » Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ça, c'est ça la petite histoire, c'est quand elle touche les gens dans leur quotidien, et puis effectivement, on l'intègre dans une grande histoire, et donc c'est dans ce sens que c'est une contribution à l'histoire de la guerre d'Algérie, et surtout une histoire à la contribution à l'histoire de France. Et donc, c'est pour ça que je suis assez heureux qu'elle ait un écho chez les gens, et quels que soient les gens, c'est-à-dire pas forcément les Français héritiers de l'immigration algérienne, mais aussi monsieur et madame tout le monde, et je ne savais pas, et c'est ça la grande surprise pour moi de ce texte, c'est de voir que l'écriture, eh bien, elle est universelle, elle est belle, et elle a une âme qui transcende toutes les classes sociales, toutes les quel que soit l'endroit où on est né. Eh bien, ça la touche. Et cette dame, elle me disait, eh bien, moi, mon mari a subi ça, et son mari s'appelle Georges.
Le comédien et metteur en scène Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, il fera une lecture performance de sa nouvelle pièce Hakima, je me souviens, dimanche 18 septembre à 16h. À l'Office du tourisme de Bourbonne-les-Bains. Enfin, l'invité de Pluriel à 19h et 23h ce vendredi est Samia Badat Karam, conseillère de Paris, membre du groupe Changer Paris présidé par Rachida Dati et élue à la mairie du 16e arrondissement. Cette édition est terminée. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos journaux et nos émissions sur radioorient.com. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.